acteurs. Voici le journal de Sarah Guibaudot. Bonjour Sarah.
Bonjour. Après 8 ans de cavale, le mystère Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas tout à fait résolu. En 2011, sa femme et ses 4 enfants avaient été découverts enterrés dans la maison familiale à Nantes. Hier, un homme dont les empreintes digitales correspondent a été arrêté à l'aéroport de Glasgow, en Écosse. C'est en tout cas l'information qui a été communiquée aux autorités françaises. Mais le passeport est celui d'un habitant des Yvelines bien réel. On fait le point dans un instant avec Corinne Audouin. Dans le reste de l'actualité, qui pour redresser le parti Les Républicains? Les adhérents votent ce week-end. Les États-Unis et la Chine s'offrent un répit dans la guerre commerciale qui menace l'économie mondiale. Et puis l'histoire d'une belle amitié autour d'un don de rein. L'invité à partir de 8h20, Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, également membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale.
France Inter.
L'homme arrêté hier soir à l'aéroport de Glasgow ne ressemble pas à Xavier Dupont de Ligonnès, mais ses empreintes digitales l'ont trahi. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Sarah.
Le Parisien a été le premier à révéler l'information hier soir, information qui vous a été confirmée. Un suspect est en garde à vue en Écosse et les autorités françaises espèrent qu'il s'agit bien du père de famille disparu en 2011 après avoir probablement assassiné sa femme et ses 4 enfants.
Oui, c'est un coup de fil qui a permis cette arrestation. Une dénonciation anonyme selon laquelle Xavier Dupont de Ligonnès allait prendre l'avion de Roissy pour Glasgow hier après-midi. Alors les policiers français arrivent trop tard pour intercepter l'homme à l'aéroport. Ils demandent à leurs homologues écossais de faire la vérification. L'homme n'oppose aucune résistance et les empreintes digitales correspondent. Placé en garde à vue, il a depuis gardé le silence. Ce matin, les enquêteurs de la Brigade nationale de recherche des fugitifs et ceux de la police judiciaire de Nantes, qui traquent le fugitif depuis 8 ans, sont en route pour Glasgow. Seul un test ADN permettra de lever complètement le doute, Sarah, d'autant qu'il aurait, vous l'avez dit, changé d'apparence physique.
Et ce serait l'épilogue d'une des plus grandes énigmes judiciaires de ces dernières années. Depuis 8 ans, les enquêteurs ont reçu de nombreux signalements, mais ils n'avaient toujours aucune certitude quant à savoir si Xavier Dupont de Ligonnès était mort ou vivant.
Oui, des dizaines, des centaines de signalements en provenance du monde entier et même d'un monastère de Roquebrune-sur-Argence. En janvier 2018, des fidèles croient le reconnaître sous les traits d'un moine. Roquebrune-sur-Argence dans le Var, c'est là qu'on avait perdu la trace de Xavier Dupont de Ligonnès le 15 avril 2011, parti à pied d'un hôtel, sac sur le dos. 6 jours plus tard, on découvrait dans la maison familiale de Nantes les corps de sa femme et de leurs 4 enfants. Alors ce qui fascine autant dans cette affaire, eh bien c'est l'extrême organisation de Xavier Dupont de Ligonnès. La nuit supposée du meurtre, il laisse un message sur le portable de sa sœur.
Voilà, ben je t'en reste. Si c'est pas trop tard, tu me remets. Je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être.
Quelques jours plus tard, Christine Dupont de Ligonnès reçoit une lettre qui explique l'absence de toute la famille. Elle la lit.
Coucou tout le monde. Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. En 2003, nous avons été mis en contact avec la DEA. Depuis quelque temps, certains indices faisaient penser que j'avais été repérée. Nous sommes donc pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux USA sous une nouvelle identité qui doit bien évidemment rester secrète.
Alors les enquêteurs avaient d'abord penché pour la thèse du suicide, mais les fouilles dans les grottes et ravins du Var n'ont rien donné. En 2015, un courrier à l'agence France Presse proclamant « Je suis toujours vivant » avait continué d'entretenir le trouble. Alors épilogue ou pas, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas fini de faire couler de l'encre.
Merci Corinne Audouin et on attendra donc que les analyses ADN et les enquêteurs français confirment que le suspect en garde à vue en Écosse depuis hier, eh bien Xavier Dupont de Ligonnès. À droite, le parti Les Républicains élit son chef. 130 000 adhérents votent par Internet à partir de ce soir et jusqu'à demain 20h en espérant trouver un patron pour sortir de 2 ans de marasme. Pas de candidat au second tour de la présidentielle de 2017 jusqu'au piteux résultat des dernières européennes. En lice, Julien Aubert, Guillaume Larrivé et le plus consensuel Christian Jacob. L'ancien ministre a des chances de l'emporter dès ce week-end, Maxence Lambrecq.
Il n'a pas de projet, pas d'ambition, mais surtout pas d'ennemis et c'est sa plus grande qualité, analyse un cadre LR. Christian Jacob, 59 ans, chiracien historique, patron du groupe à l'Assemblée, a été propulsé là par tous les ténors de la droite qui cherchaient un bon soldat, capable de tenir la maison LR ouverte sans faire la moindre vague. Le problème, c'est que nos militants sont des jusqu'au boutistes, des excités du bocal, s'agace un député. Vont-ils vraiment voter pour ce profil consensuel? Pas sûr. En face, en effet, ce sont deux quadras aux idées plus clivantes. Le souverainiste, Julien Aubert, et le libéral, Guillaume Larrivé, ont défilé contre la PMA, soutenu Éric Zemmour, proposé des mesures choc contre l'immigration. Tous deux ont joué au gardien du temple, dans la droite ligne de Laurent Wauquiez. Ils s'opposent fermement à l'idée d'une primaire avec Xavier Bertrand et Valérie Pécresse pour 2022. Reste à savoir si les cadres du parti tiennent toujours leur troupe. Ils soutiennent massivement la candidature. Candidature de Christian Jacob et n'ose imaginer sa défaite.
Quant à Valérie Pécresse qui a quitté les LR, elle a reçu hier la Légion d'honneur des mains de Nicolas Sarkozy et les encouragements de l'ancien président. Je te souhaite le plus fort, le plus haut, sans dire clairement s'il pense à la prochaine présidentielle. Le député LREM Thierry Soler a été mis en examen hier soir, mis en examen pour fraude fiscale, détournement de fonds publics et trafic d'influence passif par des juges d'instruction de Nanterre.
La Tunisie arrive au terme d'une campagne présidentielle troublée.
Kais Saied, le débat très attendu entre les deux finalistes a été très courtois hier soir. Kais Saied a insisté sur l'application de la loi pour tous et l'indépendance de la justice. Nabil Karoui sur la lutte contre la misère. Les candidats n'ont plus le droit de s'exprimer jusqu'au scrutin de demain. Les États-Unis et la Chine se disent prêts à enterrer la hache de guerre commerciale après 15 mois de hausse des droits de douane. Le vice-premier ministre chinois et le président Donald Trump sont sortis hier soir de la Maison Blanche avec le sourire. Ce n'est qu'un premier pas, mais à 13 mois de la présidentielle américaine, c'est un apaisement dont l'économie a bien besoin. À Washington, Grégory Phillips.
Ce mardi, le Trésor américain devait imposer de nouveaux tarifs douaniers, plus 25 à 30% sur 250 milliards d'importations chinoises. Les sanctions sont reportées, s'inédiées, et Donald Trump assure que là où il y avait beaucoup de friction entre les deux pays, il y a maintenant de l'amour entre les États-Unis et la Chine. Malgré tout, cet accord commercial entre les deux puissances reste encore très flou. Le président américain, dont l'objectif est avant tout de rétablir la balance commerciale entre les deux pays, affirme que Pékin s'est engagé à acheter entre 40 et 50 milliards de dollars de produits agricoles américains. Si c'est confirmé, ce serait un soulagement pour les agriculteurs d'ici qui ne parvenaient plus à exporter vers la Chine leur porc ou leur soja. Reste maintenant à écrire noir sur blanc cet accord provisoire. Ça devrait prendre entre 4 et 5 semaines. Le vice-premier ministre chinois et négociateur principal, en sortant du bureau ovale, a dit qu'il était content et parlait de progrès substantiels, mais sans donner plus de détails. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Dans le nord de la Syrie, l'armée turque a intensifié ses bombardements. D'après les Nations Unies, 100 000 personnes ont fui la région contrôlée par les milices kurdes. Des soldats américains se sont même retrouvés sous le feu de l'artillerie turque près de Kobané. Il manque des organes pour sauver des vies et parfois tout le monde peut choisir de donner. C'est le message que l'Agence de la biomédecine veut faire passer pour cette journée européenne du don d'organes. Cela concerne surtout les greffes de reins, avec 8 000 patients en attente et moins de 4 000 greffons disponibles. Alors que depuis 2011, le don de rein entre amis est autorisé, on peut donner un rein tout en menant une vie normale. C'est ce que démontre l'histoire de Reynald et Jean-Marie que Véronique Julia a rencontré. Ils avaient la chance d'être compatibles et d'être de vrais amis.
Ils ont 45 ans tous les deux, 30 ans d'amitié, et pour Reynald, il y a cette maladie héréditaire qui dévore ses reins depuis l'adolescence. Début 2016, son état empire, la greffe s'impose, il demande aussitôt un rein à Jean-Marie.
C'est pas évident, forcément on se pose des questions, on prend des responsabilités puisqu'on le met en danger, même si on vit très bien avec un rein. Malgré tout, à un moment donné, ça peut tourner au vinaigre.
Pas de surprise pour Jean-Marie. Au fil des ans, le sujet avait été fréquemment abordé entre les deux amis, il était donc prêt.
Depuis notre adolescence, oui, c'était vraiment écrit. Je ne voulais pas me retrouver devant sa tombe et puis me dire j'ai rien fait.
Et dans votre tête quand même, l'idée d'avoir un rein en moins, vous dérangeait quand même un peu à titre personnel ?
Pas du tout, puisque j'ai dans ma famille une tante qui a eu un grave accident de voiture. Elle n'a qu'un rein et je l'ai vue encore il y a 2 mois, elle galope parfaitement.
L'opération pour Jean-Marie n'est pas une partie de plaisir, mais aujourd'hui, dit-il, tout ça est derrière eux. Et l'important, c'est que tout va bien pour les deux.
Rien n'a changé, je vais très très bien. Je ne vois pas de différence, sauf sous la douche, je vois ma cicatrice.
C'est impossible de dire. disputer maintenant. Vous êtes amis à la mort.
Et oui, c'est à la vie et à la mort. On se lâchera jamais.
On marche côte à côte. Voilà, tout va très bien. À la limite, les médecins me mettent dehors en disant, on veut plus vous voir. Qu'est-ce que vous faites là? Et nous, la vocation de notre témoignage, c'est de dire, il est en forme, je suis en forme. Ça se fait plutôt bien.
Reportage de Véronique Julia, un témoignage qui vaut mieux que tous les slogans. Je vous donne quand même celui de la journée du don d'organes. Vous avez tout ce qu'il faut. Avez-vous songé à devenir donneur ?